Et tout de suite, c'est sur les docks. Bonjour Irène Emelianenko.
Bonjour Hervé Gardette. En fin d'année dernière, nous recevions un courriel insistant. Je reviens de Calais, où j'ai découvert un véritable scandale humanitaire. 10 000 personnes sont entassées depuis des mois, dans une ville monstrueuse, sur 14 hectares de friches, un bidonville français. Quelques jours plus tard, Pascal Tessot nous écrivait encore. J'ai fait la connaissance de plusieurs jeunes magnifiques dans le camp. Ils viennent d'Afghanistan, Érythrée, Irak, Éthiopie, Soudan, Belgique, Angleterre. Loin des statistiques journalistiques, ces jeunes personnes m'ont parlé de leur parcours, de leur pays, de leurs rêves, de leurs passions. Ensemble, nous avons échangé autour d'un thé ou d'un feu de camp. À travers leur quotidien et leurs témoignages, nous rentrerons de plein pied dans le quotidien infernal de la jungle.
Calais, les enfants de la jungle.
Là, on est à 50 mètres de l'entrée de la jungle. Tout le long en fait, de cette route, il y a des barrières blanches, des grillages qui font au moins 4 mètres de haut. On va se rapprocher. Là, il y a un ancien chemin de fer, des rails. Et là, si on se rapproche, donc ça fait ça fait genre 3,50 m de haut. Et ils doivent passer par-dessus avec des lames de rasoir et des fils barbelés en haut. Et c'est là où les certains migrants bloquent les camions en haut là de. Ce pont pour s'infiltrer dans les camions de force quand ils sont désespérés. Et donc les CRS sont tout le temps là pour guetter et empêcher. La dernière fois que j'étais venu, en fait, les jeunes montaient sur le talus là et ils arrivaient à 50 et ils bloquaient carrément tout le. Et alors là, je découvre, parce que moi je suis venu, c'était il y a un mois, ils ont rasé tout le côté gauche. Donc là, ici, c'était. Je sais pas, il y avait. Ah là là, c'est impressionnant. Il y a au moins... combien il y a de longueur là? Sur 200 mètres? Là, ils ont tout rasé. Donc là, il n'y a plus rien. Ils sont plus là. Ils veulent réduire en fait la taille de la jungle qui est grande au départ de 14 hectares. Donc là, on rentre dans la jungle qui a été réduite. Voilà, ici, tu vois. Là, c'était plein à craquer de tentes bleues quechua. Beaucoup d'enfants, des adolescents. Donc là, c'est l'avenue principale de la jungle, avec des maisons en bois, des restaurants. Là, c'est quel côté ici, là, ce côté droit? C'est afghan? Afghan. Bon, c'est des maisons construites vraiment de briques et de broc, hein, avec des bouts de bois, des grillages. Des trucs en place, des bâches en plastique.
Okay, go back to the jungle.
Stop.
Le collectif qui est à la base de l'appel de Calais a répondu la semaine dernière en disant qu'on était en rupture totale avec ce gouvernement et
Christophe Rougia
et le chef de l'État, c'est-à-dire que la manière dont ce gouvernement et ce président de la République se comportent aujourd'hui par rapport à la crise des réfugiés est juste minable, insupportable, inadmissible, honteuse, scandaleuse. Donc la naissance de l'appel de Calais vient d'un article écrit par quatre médecins, si je ne me trompe pas, de Médecins du Monde, qui dénoncent la situation à Calais, qui annonce une catastrophe humanitaire et sanitaire majeure pour l'hiver. Et qui font un état des lieux absolument cataclysmique, on va dire, de la situation à Calais. Et donc on décide de lancer cet appel pour, en gros, taper du poing sur la table. Voilà, nous, entre-temps, ben, on a été beaucoup sur place, c'est-à-dire qu'on a été juste avant l'appel, et puis juste après l'appel, on a commencé à se relayer sur place. On a décidé de faire une espèce de veille sur le bidonville, de témoigner jour après jour, d'envoyer des écrivains, des dessinateurs, des photographes, des cinéastes. Très rapidement, ça nous a tous frappés les uns après les autres. C'est-à-dire que tous les gens qu'on voyait quasiment dans le bidonville, dès qu'on croisait quelqu'un, ils nous disaient je sais pas, qu'est-ce que je peux espérer comme droit, qu'est-ce que je, voilà mon parcours, je suis arrivé là, je suis parti là, qu'est-ce que je peux faire et tout. La création du centre juridique de l'appel de Calais, donc dans le bidonville, a été est née d'un constat en fait qu'on a fait. Et on s'est aperçu qu'il y avait un manquement hallucinant, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun accueil. Donc une fois que la cabane a été construite et que en rencontrant Marianne Bursot est devenu imaginable de pouvoir faire venir des juristes, des avocats bénévoles, spécialistes du droit d'asile pour pouvoir travailler auprès des réfugiés dans le bidonville.
Donc là on va se diriger vers la maison juridique. Voilà, c'est immense, hein. Il y a des voitures, il y a des tentes partout, des constructions, c'est gigantesque. Donc voilà, centre juridique, Legal Center, All Charpenters are beautiful. Bonjour.
Salut Pascal.
Ouais.
Salut Pascal.
Enchanté.
Enchanté de même.
Donc ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas. Et pourtant on est fermé là. On est fermé, on ouvre que de 1 à 5 heures.
Le matin vous êtes fermé.
Le matin on est fermé. Mais moi j'ouvre souvent, je viens travailler ici quand même, et parce qu'il y a des cas de violence policière, violence civile. Je veux entendre les gens dans un contexte très calme et ça n'arrête pas.
Marianne Humberso.
Le problème qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas toutes les nationalités qui viennent. On a surtout des Afghans parce qu'on est installé dans la zone afghane. Donc là, on va essayer de mettre en place des maraudes, mais il faut plus de gens, donc plus d'argent. Donc comme on fonctionne complètement indépendamment sur un crowdfunding, sur un financement participatif, on a besoin de plus d'argent pour pouvoir défrayer plus de bénévoles. C'est le pire camp de réfugiés qui existe. Tous les humanitaires, tous ceux qui ont vu des camps de réfugiés pourront vous dire ça, parce qu'il n'y a pas les UN, les Nations Unies ne sont pas là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas le Haut Commissariat aux réfugiés, ça veut dire qu'il n'y a pas l'UNICEF pour les enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'UNIFEM pour les femmes, ça veut dire qu'il n'y a pas le PAM pour la nourriture, ça veut dire que voilà, tout ça, ce n'est pas là. Il n'y a pas cette organisation qu'on trouve dans tous les camps de réfugiés dans le monde. Ici, c'est vraiment fait de briques, de brocs, de volontaires, que des Anglais quasiment, il y a 95% de volontaires anglais. Les Français ne sont pas présents, c'est d'ailleurs très très surprenant et très inquiétant, je dirais. On a du coup des individus qui sont livrés à eux-mêmes ici, donc de l'aide sauvage qui n'est pas forcément très organisée. Il y a en grosse association, c'est uniquement celles qui sont sur des financements propres. Donc Médecins Sans Frontières, qui est venu suite à l'appel de Médecins du Monde en soutien, qui s'est occupé de tout ce qui est water and sanitation, de tout ce qui est assainissement, et qui évidemment a monté une clinique. C'est tout ce qu'il y a comme grosse organisation. Il y a ACTED qui est du coup l'opérateur de l'État suite à la condamnation de l'État sur les conditions de vie ici. ACTED a été mandaté pour venir faire ce que faisait MSF sur les abris et l'assainissement. Ils n'ont pas encore tout pris, donc MSF en fait encore beaucoup. MSF a posé à peu près 230 abris ici en 3 mois.
Should we go? Yes.
Par exemple, donc lui, il a 16 ans. Il ne peut pas demander un droit d'asile en dessous de 18 ans en France ?
Ben, c'est-à-dire que la situation est très complexe. Voyez-vous, ici, dans le camp, nous avons, allez, je dirais à peu près 800 mineurs isolés, étrangers non accompagnés. Sur 800, 600 Afghans, il y a une défaillance terrible, terrible et indigne de l'État français sur le cas des mineurs étrangers isolés sur le camp ici. Le processus, c'est d'abord une mise à l'abri, ensuite la nomination d'un administrateur ad hoc qui va pouvoir déposer la demande d'asile du mineur au nom du mineur. Une fois qu'il dépose la demande d'asile, le mineur, s'il a de la famille en Angleterre, il peut demander à ce moment-là la réunification avec sa famille en Angleterre et le transfert de son dossier en Angleterre. Le regroupement familial, le fameux Dublin dynamique. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a que 30 places dans le foyer d'urgence pour les mineurs de plus de 15 ans et 4 places dans les foyers d'urgence pour les mineurs de moins de 15 ans.
Où ça ? C'est où ça ?
Ici.
À Calais ?
À Calais. Voilà. Donc, autant vous dire que sur 800, combien on peut en mettre ? Bah, pas beaucoup. Ensuite, l'offre qui est proposée est totalement inadaptée parce qu'il leur faudrait un tuteur, quelqu'un qui voit souvent. Du coup, ils n'ont pas confiance. Ensuite, ils savent pas. Il y a personne qui vient leur expliquer ce que c'est, qui prend le temps. Parce que parler à un mineur, c'est aussi tout un accompagnement, c'est une mise en confiance progressive. Enfin, vraiment progressive. Et ces mineurs sont livrés à eux-mêmes et à toutes. Du coup, on n'arrive pas à les sortir du camp. Et ils sont livrés à eux-mêmes et à tout ce qui peut leur arriver, traite, prostitution, violence. C'est eux qui vont prendre le plus de risques aussi à passer en Angleterre.
Pure. Lui, ça fait combien de temps qu'il est ici, demande-lui.
Manar, how long have you been in the camp? 4 months.
Yeah.
Yeah. Okay.
This jungle.
How many times you tried to pass to England since 4 months?
3 months? Yeah.
C'est more that you pass every night?
Yeah, this train jump is police come, go to jungle.
Tous les soirs?
Tous les soirs, il tente, lui. Tous les soirs, il tente et il tente à la gare où la police, enfin, un endroit de passage de la gare, et la police à chaque fois l'attrape et lui dit retourne à la jungle.
Automatiquement.
Ils leur disent go to jungle.
Quartier des Irakiens, Érythréens, Afghans. Il y a une église, deux églises même éthiopiennes. Il y a une mosquée, il y a des restaurants, il y a des théâtres qui ont été construits par des Européens, et une bibliothèque voilà, des associations qui viennent en aide, de leur donner des vêtements, à manger. C'est très 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 grand. Voilà, donc il y a énormément de tentes. Et voilà, on marche dans ce bidonville. Et les gens sont très accueillants et très fatigués. Ils traversent tous les jours 13 km pour atteindre le tunnel et essayent tous les soirs de passer.
Voilà, route de Biba. Freida, Khalifa Freida. Chaud-moi.
No, it's not fighting. Hi, so my name's Jake.
Bonjour, je m'appelle Jake, je viens d'Angleterre. Je travaille comme professeur ici dans la jungle, dans le centre pour les jeunes. Je coordonne également les cours pour les 12-18 ans, ce qui est un gros investissement, mais j'aime vraiment beaucoup ça.
So Jake, where we are here?
Okay, so we are just coming up to the
Alors, ici, on arrive au nouveau bâtiment qu'on a construit pour les jeunes. Vous pouvez voir que la partie couverte fait 10 mètres sur 18. Et quand ça sera fini, on aura la même superficie en extérieur, protégée du vent et du froid. Venez, je vais vous montrer à l'intérieur.
So this, in English, is a graph. Can you say that? Graph.
Graph.
Graph. Graph, yeah? Graph. Graph, yeah. Graph. You say graph, Bilal? This is a graph. What is it in Farsi?
Graph.
Excellent. Right, who's next? So next?
Bilal?
Bilal, can you do yours? Did you
say? Excellent. So, why all these young people like you are so committed in Calais? What is the energy of all this organization?
I understand the question. Yeah,
c'est une question difficile. Beaucoup de gens s'engagent et viennent ici pour une semaine, ou disent en tout cas qu'ils viennent pour une semaine, et ils finissent par rester beaucoup plus longtemps. Je pense qu'ici, on a parmi les meilleurs bénévoles d'Europe parce que ce sont des gens sensibles. C'est, heureusement ou malheureusement, c'est la malédiction des gens qui ont du cœur. C'est ici, en France, que ça se passe, mais c'est à la porte de mon propre pays. Je sens que ma place est ici et nulle part ailleurs. Ici, il y a des enfants qui ont besoin de moi. Au Royaume-Uni aussi, d'ailleurs, mais les enfants ici ont vraiment beaucoup plus besoin de notre soutien. Et pas seulement les enfants, tout le monde ici a besoin de notre aide. Donc les gens viennent et donnent beaucoup d'amour, ils travaillent dur. On essaie juste de créer un meilleur avenir pour ces êtres humains. Voilà, c'est ça, l'essentiel est là, les êtres humains.
And can you describe me your sensation when you arrive the first day here? What happens in your mind?
Il y a des choses terribles qui arrivent dans la jungle. Mais les gens conservent malgré tout beaucoup d'espoir. On peut voir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi de pire dans l'humanité. Mais on voit surtout le meilleur, vraiment. Les gens restent et vivent ici, et ça me brise le cœur. Mais je reviens ici dans la jungle tous les jours et je vois les mêmes sourires, et du coup, ça me réchauffe le cœur.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils transportent une maison? Ils sont une vingtaine là? De quel pays?
Et ça doit être des Soudanais, je pense. Soudanais.
Ils transportent une maison?
Ouais, ils transportent une maison pour aller dans un lieu un peu plus.
نعم أنا سا لراق واتوم يعني زولات من بريوا هن لتركيا تيمبو تركيا ما هن بنجاش ولوي بوين بنش وبنز رشتيا بوين خيوب غريق بين هن بوليسي هن إيطاليا أو فريقة وتينا جينا غرق بوين وعليو قشتنا إيطاليا ليو هين جاي فرنج إيطاليا كوية
He say we come from Iraq first
Je m'appelle Anas.
We went to Turkey and we stayed
On a traversé 11 pays pour venir ici.
And we got smuggled and we paid
On est venu d'Irak en Turquie où nous sommes restés 50 jours. Puis, nous avons payé un passeur pour qu'il nous emmène en bateau. On y a passé 5 jours et 5 nuits. Le bateau allait couler, mais la police italienne nous a sauvés. En Italie, on a payé un passeur qui nous a amenés ici en bus. De Paris, je suis encore venue avec un passeur. Et ça fait 2 mois qu'on est ici. Nous voulons aller à Londres, mais il ne nous laisse pas passer.
How old is he?
10.
10.
J'ai 10 ans. La première fois que j'ai eu peur, c'était sur le bateau. On était 275 personnes à bord, entre Asmir et les côtes italiennes. Un petit bateau. Puis, quand les passeurs nous ont chargés à 40 ou 50 personnes dans un van, il faisait noir, j'avais très peur.
He said, "I want to come to, I want to go to Britain and first."
Mon rêve est de passer en Angleterre pour retourner à l'école et avoir des amis, comme avant en Irak, comme à la maison. Plus tard, je veux être journaliste, comme vous.
Ça pue, ces usines. Oh là là.
Ça, c'est une usine de quoi, ça?
D'aérosol.
Aérosol.
Ça pue.
Bonjour.
Bonjour.
Une pièce d'identité, s'il vous plaît.
Bien sûr.
Oui.
À quel titre? Avec une identité, procureur de la République.
Est-ce qu'on peut la voir, s'il vous plaît?
Non, vous ne pouvez pas la voir. Si vous voulez pas me donner une pièce d'identité, il n'y a pas de problème, madame. Vous voulez pas me donner une pièce d'identité, madame?
Je veux juste faire la réquisition du procureur, c'est mon droit, il me semble. Vous êtes tenu de l'accord avec vous. C'est normal.
C'est
un chaussée,
qui est
de mon copain,
c'est n'importe
quoi. Qui est venu,
l'arrêter, c'est tout.
Une partie de la. Parce qu'en fait, on est que deux.
Française,
mon voisin. J'en étais
50
en
faisant
30,
on est que deux.
Je n'ai pas déclaré mon identité.
Ah bah non,
vous êtes française, je vous demande. Vous êtes française? Vous êtes
majeure? On n'a pas besoin de la réquisition. On n'a pas besoin de la réquisition du procureur. Je viens de vous dire, vous avez l'impression parce que vous marchez sur la route.
Vous êtes garé sur la route.
Oui, parce qu'on est dans la zone des 20 km.
Zone
portuaire internationale. Donc dans ces 20 km-là, en fait.
Il y a des gens qui marchent, vous ne les contrôlez pas.
On n'est que deux, en fait. On n'est que deux. Quand on est deux, on contrôle 2-3 personnes. Si on serait 50, on contrôlerait plein de personnes.
On ne contrôle pas. Voilà.
C'est discriminatoire à vis-à-vis des blancs.
Voilà. De faciès pour les blancs.
C'est marrant,
non? On a été dans le
jeu. 3 février 2016, Bernard Cazeneuve interdit toute manifestation à Calais. Les CRS contrôlent l'entrée et la sortie de la lande. Seuls les Européens sont contrôlés. Le jeudi 12 février, la préfète du Pas-de-Calais annonce le démantèlement de la zone sud de la jungle.
How old are you?
J'ai 20 ans. 20 ans. 18 ans. Je suis petit. Petit. Mais grand.
You arrive with all your friends together?
Yeah. Oui. On est venu tous ensemble avec tous nos amis.
You have family in England? UK?
Yes, yes.
UK? Family?
Yes, yes, my brother.
Your brother?
J'ai mon frère au Royaume-Uni.
Café ou thé?
Thé. Tea. Can you explain what's happening in your country?
يعني العسكرية إسرائيل اللي خش عسكرية ما عنده فترة معينة يا
تدخلوا فيها وتخرج
أي يعني متواصل أنت 20 سنة 10 سنة ما تقلص نهائي بس
le service militaire est obligatoire et actuellement c'est quand tu rentres c'est pour 10 ans 20 ans t'es même pas payé. Ce n'est pas une période où tu passes ton service et tu ressors, mais c'est des années. Oui.
C'est pour ça que tous les jeunes s'enfuient, c'est ça. Tu me dis ça. Et it's dangerous here for you, here.
Very dangerous, very, very, very dangerous.
Why? C'est très, très dangereux pour moi ici. Parce que la police utilise des gaz lacrymogènes tout le temps contre nous.
Gaz all the time.
C'est plus comme avant, la situation a changé. Si vous restez un peu, vous allez le constater vous-même. C'est à la station, là, à la gare, si les flics t'attrapent, ils t'emmènent encore plus loin dans un coin paumé où ils te lâchent, tu ne sais même pas comment rentrer. Tu traînes toute la nuit pour trouver ton chemin de retour déjà pour revenir à la gare.
Je sors de la voiture.
Dans un sourire.
Oui. في عنصريين كتار هنا.
في كالي في. énormément de racistes ici à Calais. Tu peux même pas sortir. Il y a des gens qui t'agressent juste parce que tu marches dans la rue.
Dans la ville.
Beaucoup de gens étaient tabassés. في المدينة كالي.
Yes, one day I'm coming from the parking station. Before meet with the police, 10 persons from Kurdish. It will hit me. I'm running from here.
Okay.
And again, when I meet with the police, I will tell you. 10% like that, I hit me. I tell that.
Kurdish people attack you?
Yeah. After that, the police, no, like that. Hit me again.
Il explique qu'il s'est enfui d'une attaque de Kurdes qui l'ont attaqué. Il était une dizaine. Il s'est plaint à la police. Et la police l'a tapé.
After running from the police, and again to meet another police.
Okay.
I will tell you one thing. The police hit me. No, go. Tear gas.
Donc il s'enfuit de la police qui le tabasse. Il se plaint à d'autres policiers qui le gazent. Voilà. And you, what do you want to do in your life, in your future?
Plus tard, je vais étudier le football.
Football?
Yeah.
You're a good footballer?
Yeah.
Je suis un bon footballeur, ouais.
What is your best player in football for you?
Zinedine Zidane.
The best.
Yeah.
The best of the best.
C'est le meilleur joueur du monde.
The genius.
Legend.
Une légende.
This time he's coach.
Maintenant, c'est devenu le coach du Real Madrid.
Toi, t'es d'où, toi?
Moi, je suis de Kabylie aussi.
Kabylie?
Comme Zidane. J'ai pas les yeux bleus, je marque pas des buts en finale de Coupe.
Nasri Borde, ça?
Mais je crois que je sais vraiment pas ce que je fous là. Sérieux, hein? Je suis venu à la base pour 2-3 jours et ça fait un mois que je suis là. Et c'est vraiment un coup de vent qui m'a amené. Je suis venu juste voir, quoi. Et depuis, j'ai commencé à tourner un film. Enfin, depuis, j'ai mis 15 jours à peu près à sortir la caméra. Là, je commence à tourner un peu parce que j'ai rencontré quelques personnes.
Marwan.
Et à la base, je suis venu chercher une image. Et les déchetteries de l'histoire. Et finalement, je suis là pour autre chose.
Tu vis ici?
Ouais.
Tu t'es installé là?
Ouais, je pars quand même... je quitte un peu pour aller faire des copies ailleurs, pour retrouver un ordinateur, des machins, charger les batteries.
T'as été choqué, c'était un choc la première fois?
En fait, je suis venu ici parce qu'avant, j'étais en Grèce et j'ai vu un peu pire, une jungle urbaine. Et là, c'est une jungle un peu différente. Non, pour moi, c'est un pays, quoi, la jungle ici. C'est une utopie, presque. Après, bon, là, il sert de plus en plus. Et cette attente, elle crée une vraie tension qui monte, qui est réelle. Mais sinon, ouais, pour moi, c'est un beau pays. Les pays voisins, ils sont pas très commodes. Les gardes frontières, l'armée française, elle est difficile en ce moment.
Il y a une topie de mélange de gens qui vivent ensemble.
Ouais. C'est un peu. Il y a une concrétisation de l'anarchie ici. Il y a une naissance d'une nation. Il y a des politiciens qui se mettent en place, qui commencent à peine. Mais c'est beau de voir tout ça.
Des leaders, tu veux dire?
Ouais, des leaders politiques, des conflits d'intérêts, de la mafia. Il y a plein de choses qui sont en train d'émerger.
Where would thou leave me speak? I'll go no further.
Mark me!
I will.
My hour is almost come.
My name is Joe Murphy. I'm the artistic director of.
Je m'appelle Joe Murphy, je suis le co-directeur artistique du Good Chance Theatre avec Joe Robertson. J'ai 25 ans, je suis dramaturge et je viens de Grande-Bretagne. On a ouvert le théâtre il y a 4 mois et aujourd'hui nous recevons Globe to Globe Hamlet du Shakespeare's Globe de Londres. C'est une pièce qu'ils ont déjà jouée dans 167 pays, dont la plupart sont d'ailleurs les pays d'origine des réfugiés de la jungle. Ça va être une journée très excitante, un événement très intéressant qui, je l'espère, sera stimulant et offrira un véritable réconfort pour les gens ici. Je pense qu'Hamlet va résonner avec les histoires des réfugiés. La pièce parle d'un homme qui doute, se questionne face à la vie et à la mort et devient fou à cause de sa situation.
Revenge is foul and most of nature. People come every night because people need.
Les gens viennent ici tous les soirs car ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'un espace où ils peuvent être avec d'autres personnes au lieu de rester seuls dans une tente humide et glacée. C'est un besoin vital et si les gens n'ont plus cette possibilité d'être ensemble, ils cessent d'être des individus. L'art rassemble les gens, ça crée des communautés, et j'espère pouvoir continuer à construire ici une grande communauté. Nous resterons là pour faire ce travail tant que les gens auront besoin de nous.
So they're going here, the kids?
Yeah, we have lots of kids.
Ici, nous avons beaucoup d'enfants qui viennent.
Kids you have in your
It changes all the time.
Tous les jours, on a environ une vingtaine d'enfants qui ont de 4 à 17, 18 ans. Un bon nombre de ces enfants rendent les choses plus piquantes. Ce sont vraiment des enfants adorables. Et c'est une des raisons pour laquelle il est pénible de les voir dans une pareille situation. Ils ne devraient pas être là.
Children, which is one of the reasons that it's so difficult to see them in this situation because they shouldn't be here.
That's their unique space of freedom in the jungle.
Yeah,
Oui, on est vraiment un espace de liberté. On l'espère en tout cas. Ils peuvent venir ici et peindre, faire des chansons, des pièces de théâtre. Ils sont très doués pour ça. On a eu de nombreuses pièces écrites par des enfants qui font partie d'un petit groupe de théâtre qu'on organise juste pour eux. En fait, quand on fait du théâtre avec les enfants, ils te disent « Laissez-nous, on va le faire, on va le faire nous-mêmes ». Puis ils reviennent une heure après avec un sketch sur un roi et une reine qui ont besoin de nourriture. « Donne-moi plus de nourriture !» Ils sont vraiment drôles.
Oh non, non, non.
England goat. England goat, England goat. Excuse me, please, England goat. Oi, no problem. Okay, welcome.
My name is Kajin. And, I'm from Iraq. I'm blind.
Je m'appelle Kajin, je viens d'Irak et je suis aveugle. Je suis diplômée en droit à l'université de Kirkuk. J'étudiais pour devenir avocat. Je vis seule ici. Je n'ai pas d'amis ni de famille. Au début, je suis venue avec mes amis, mais ils m'ont tous abandonnée. Ils sont partis en Angleterre, certains en train, d'autres dans des camions. Je suis donc restée ici sans personne. Je suis aveugle, donc je ne pouvais pas suivre mes amis sur le chemin qu'ils ont emprunté. Ils attendent le train, et c'est trop difficile pour moi. Donc je reste ici seule en attendant que quelqu'un m'aide à partir en Angleterre. Une fois, j'ai essayé de passer la frontière en camion, mais pendant le contrôle, la police m'a attrapée et ils m'ont ramenée ici dans la jungle. Ils m'ont dit, pas de chance, essaye une prochaine fois. Go to the jungle.
No chance. Try another time. I have an uncle. He's living in England.
J'ai un oncle qui vit en Angleterre.
That I need to go to England.
Il y a deux raisons pour lesquelles je veux aller en Angleterre. La première, c'est la langue, et la deuxième, c'est mon oncle.
He has another cousin. She's 16 years and.
Ce garçon qui est avec nous a une cousine qui a 16 ans et Daesh l'a kidnappée il y a environ 2 semaines. Il ne sait pas où elle est. Elle a 16 ans.
She's 16 years. Iraq became so bad according to security, so we have no any. Insurance.
C'est vrai que l'Irak est devenu tellement terrifiant en termes de sécurité. On est en danger. Il n'y a plus de sécurité. On n'a plus rien. Donc on vient ici pour se construire un autre futur. Surtout pour les gens handicapés comme moi. On souffrait beaucoup là-bas. On avait tant de problèmes en Irak. C'est pour ça qu'on est là. Pour espérer une vie meilleure que celle qu'on avait.
Voilà, roi de Debuba. Freida, Freida, Freida. Show me that.
Je m'appelle Emeline, j'ai 19 ans et j'étudie donc en licence la culture et les médias. Et donc ça fait maintenant quelques mois que je suis bénévole non agréé, on va dire, dans la jungle de Calais. Donc depuis septembre en réalité.
Et tu es née
à Calais. Là, on est à côté de, du camp dur qui n'est pas accessible aux étrangers, entre guillemets, parce qu'il y a un système de contrôle pour les personnes, donc les migrants qui y vivent. Le camp dur est délimité par une sorte de rivière et délimité par des barrières qui doivent au moins monter jusqu'à 2 mètres, avec à l'intérieur des containers, des WC et des containers qui accueillent plusieurs migrants avec des lits à l'intérieur, il y a des chauffages sur lesquels ils peuvent accrocher des serviettes et il y a aussi l'électricité. C'est un dortoir, en plus ils peuvent pas y rester l'après-midi. C'est-à-dire que c'est juste pour la nuit et que le matin ils leur disent bon bah c'est l'heure de partir et vous revenez le soir et pour passer la nuit quoi.
Tu es de Calais ? Pourquoi t'es là alors ? Toi ?
Bonne question. Bonne question parce que étant natif de Calais, je peux pas ignorer ce qui se passe dans ma ville. À l'âge de 19 ans, je me suis dit bon, ce serait peut-être le moment d'aller mettre les pieds et de voir par moi-même ce qui se passe réellement, parce que c'est bien beau de voir ce que les médias en pensent, mais il faut se faire son avis personnel. Et arrêter d'avoir peur et de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et sauter le pas, quoi. Parce que il y a des personnes qui sont extraordinaires que j'ai pu rencontrer ici, dans la jungle, et voilà, je pense que c'est pas des personnes qui méritent qu'on les ignore tout simplement et qu'on leur dise bah, débrouillez-vous, quoi. Même si je peux rien faire, je suis là quand même, quoi.
Et nous on a de la chance parce qu'on a quand même un générateur assez silencieux. Quand il veut bien marcher.
Je t'aide.
On contrôle leur liberté d'aller et venir, où on les sépare, on les isole, ils ne peuvent pas se faire à manger, il y a très peu de lieux de vie, je crois que maintenant ils en ont mis en place. Ils n'ont pas le droit d'inviter des gens, il y a un contrôle digital à l'entrée, de reconnaissance palmaire, mais même quand on interroge les bénévoles de la vie active, donc qui est l'association qui est chargée de la gestion de ce camp, on ne sait pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire de ces informations-là. Il faut s'imaginer, se mettre dans la peau de ces gens. Ils font un long voyage depuis chez eux. Ils partent parce qu'ils sont poussés à partir par la guerre, par des conditions de vie scandaleuses chez eux. Personne ne quitte son pays par plaisir. Donc ils partent et ils voyagent pendant des mois. Ils sont pendant des mois, ils sont formatés à refuser, à avoir peur de poser leurs empreintes quelque part. Ils arrivent ici, ils sont en situation de traumatisme psychologique aigu. Et en plus de ça, on les force à aller dans un camp de l'État où il va falloir qu'ils mettent leurs empreintes digitales. On les force à faire un geste qui est très traumatisant pour eux. En fait, il y a une régulation européenne qui s'appelle Dublin 3, le règlement Dublin 3, qui régit la responsabilité, c'est des règles de détermination de la responsabilité, de quel État est responsable pour entendre la demande d'asile de quelqu'un. Normalement, c'est le premier pays dans lequel entre quelqu'un en Europe qui va être responsable de la demande d'asile de cette personne-là. Donc, comment on détermine ce premier pays d'entrée ? C'est le premier pays où on voit quelqu'un. Donc, soit parce qu'on lui a pris ses empreintes digitales, elles sont consignées dans un logiciel européen qu'on appelle Eurodac, qui va permettre de retrouver, même si la personne donne un faux nom, va permettre de retrouver la personne et les États. Sont donc, quand ils trouvent une personne et qu'ils prennent leurs empreintes digitales, si elles voient que l'empreinte digitale a déjà été donnée dans un pays, l'État français va avoir le droit de demander à ce pays s'il veut bien reprendre la personne, puisque c'est lui, normalement, qui est responsable de la demande d'asile de cette personne. Or, on sait bien qu'il y a des pays où on ne peut pas renvoyer. La Grèce, depuis 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'on ne pouvait pas renvoyer en Grèce car les conditions de demande d'asile en Grèce ne sont pas satisfaisantes. Aujourd'hui, on sait que la Bulgarie, la Hongrie, la Slovénie, c'est des pays où la demande d'asile est très très mal entendue et enfin c'est des conditions complètement terribles. Donc on ne devrait pas renvoyer vers ces pays, mais on le fait. Ils risquent leur vie tous les soirs pour passer en Angleterre, puisque les frontières de l'Angleterre sont fermées. Donc ils sont obligés de passer par des canaux illégaux. Et si jamais ils arrivent, ils ont la chance d'arriver à passer, c'est possible que l'Angleterre dise, en application de la loi, l'Angleterre a tout à fait le droit de dire « Bonjour monsieur, nous savons parce que vous avez déposé vos empreintes en France, ou parce que nous avons vu sur votre Facebook que vous étiez dans le camp de Calais, ou parce que vous avez déclaré être passé par Calais avant, nous pouvons, en application du règlement Dublin 3, vous renvoyer en France, puisque c'est la France, l'État responsable, pour étudier votre demande d'asile. » Et puis en plus, ils ne veulent pas rentrer dans ce camp. Pourquoi ? Parce que non seulement ils ne savent pas, pour ces empreintes, qu'est-ce qui va être fait de ces empreintes, ils ne savent pas qu'est-ce qui va leur arriver dans le camp. Ensuite, ils ne savent pas qu'est-ce qui va leur arriver à la fin de la trêve hivernale, à partir du 31 mars, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que l'obligation d'hébergement de l'État pour les gens en demande d'asile, enfin les gens sans papier, n'est que jusqu'à fin mars. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de fin mars ?
Je suis Solène. Je me présente donc Solène, je travaille ici et je m'occupe de tout ce qui est sur les violences, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec les violences en ce moment. Et les personnes viennent ici, peuvent témoigner, d'accord, raconter leur histoire. Et s'ils décident de faire quelque chose, d'aller en justice par exemple, on peut les accompagner dans un dépôt de plainte. Est-ce que déjà vous pouvez me préciser la date, quand c'est arrivé ?
تضربت يوم الأربعاء الصباح اللي هو تقريبا الساعة خمسة يعني أربعة ونص خمسة تاع الصبح.
mercredi matin 4h 5h du matin.
لا إحنا رحنا أربع أشخاص عدينا فتنا القنطرة هذيك ورحنا قدام ما نوصل ليدي قليل كان البوليس متخبي في محطة متاع بترول بنزينة كوستكو.
on a passé le pont on était à quatre أربعة ولا خمسة.
إحنا كنا خمسة أشخاص.
خمسة personnes. Où juste avant d'arriver au Lidl à la station service, il y avait une voiture qui était stationnée là-bas.
Je vais lui montrer des photos des différents acteurs des forces de l'ordre ici sur Calais pour qu'il puisse les identifier et me dire qui l'a vu. Comment était-il habillé ? Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'il portait comme vêtement ?
Noir,
comme ça ? Avec le blason.
Ils sont habillés comme les CRS qui sont présents là au pont, qui sont là autour. Ils sont pas venus me taper pour juste me taper. Ils m'ont tapé d'une manière bizarre, quoi. Ils voulaient me taper sur la tête. Je me protégeais la tête.
Ils se
sont mis à me taper sur les jambes et les bras. J'ai mis mes bras sur la tête.
Le plus dangereux
qu'ils m'ont porté, c'était à la cage thoracique. Qui m'a coupé le souffle.
حبست عليا الهواء اصل.
C'était un coup qui m'a coupé le souffle, je pouvais plus respirer. J'ai vu la mort. Shahad, comment dire ça en français, Shahad. كيف تقول شاهد بالفرنسي يا رجل. Il a appelé Dieu, quoi. Il a vu sa mort.
Est-ce qu'il frappait avec des matraques ou avec les poings ?
Ana yadrabou fiya bel asa w brijlihom. Hada el darb li hassit bih. El asa. Ba3din ki el asa ma fadetch tadrab hon adi. Darbni.
À force de courir, moi j'étais épuisé, donc vite j'étais par terre. Et donc c'était des coups de matraque et des coups de pied au sol.
D'accord.
Ils étaient à trois, donc ça tapait un peu de partout.
Ça tapait partout. Et ensuite, ce dernier coup, ils vous ont laissé, ils ont arrêté de frapper après.
Ouais. يعني كمان تعرف معروف عندك ضربة هون أو هون تصير لك هوا يروح يعني ما نعرفش رغورة يعني نعرفش فهمت الرية أو كيف تتسكر راح عليه هو شوي هم راح المفيد العيطة هم خافوا من بعد ما عيط يعني يقول لك هذا مات أو ما نعرفش
après le cri et après le souffle coupé je sais pas peut-être ils se sont dit ils avaient peur que je sois mort ils sont partis
ما فهمتش ليش يعني يضربوا فينا بالطريقة هذه قبل البوليس لما نمشوا يقول لك جو جنجل او امشي لكن المده هذه تبدل العنف بشكل مش طبيعي يعني يضربوك ويقول لك يحبوا يرهبوا الناس باش ما تخرجش ما فهمتش يعني
je comprends pas avant les flics qui nous arrêtaient quand on allait tenter les passages ils nous disaient go to jungle mais là toute cette violence ils veulent qu'on ils veulent de la terreur pour que les gens sortent plus de la jungle.
الحقيقة احنا في بلادنا حتى صارت حرب وصارت ظروف الانسان يعني نعرف وقتاش يضربوه اللهم يبدا هو بحاجة بشغب او يتدف او يعمل اما انسان ما يعمل شيء وتضربه اول مرة لي صراحة
même dans nos pays qui sont en guerre quoi il y a toujours une raison pour taper quelqu'un pour violenter quelqu'un que cette violence qui est gratuite elle est un peu difficile.
Et c'est pour ça que nous, on a la possibilité d'envoyer directement un courrier au procureur sans aller au poste de police. Mais en tout cas, déjà, vouloir justice, c'est déjà... Et le dire, et l'exprimer, et raconter son histoire, c'est vraiment le premier pas et le plus important, en fait, le plus difficile aussi.
Non, je viens d'apprendre que le centre juridique vient de brûler. Voilà, dans la zone sud, ça fait partie des lieux de vie qui étaient protégés par le jugement du tribunal administratif de Lille. Pour l'instant, je sais juste qu'il vient de brûler. J'ai un texto de Marianne qui me dit que de toute façon, on va rester dans la zone sud et qu'on va poser une tente à la place. Là, ça a brûlé. Et il fallait que le feu prenne bien parce que c'était du bois de construction, c'est impossible que ce soit un accident.
C'était Calais, les enfants de la jungle. Attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Prise de son studio Pierre Henry. Mixage Olivier Dupré. Un documentaire de Pascal Tessot et Guillaume Baldi pour Sur les Docs. الله أكبر شفت الحارة الحارة صار لونها أحمر ريحة الدم والأشلاء قدامي عم تتبعثر ركض لحتى ساعد رفيقي كان جريح المشافي بده دم الجوامع عم بتصيح الحيطان بالشوارع صار لونها أبيض من النعوات يلي تلزقت باليوم الأسوأ